Philippe Audouin, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le directeur financier de Razéo. Nous sommes avec vous à Lyon, vous rencontrez les investisseurs. Qu'est-ce que vous leur avez dit des derniers mois de Razéo en termes d'activité et effectivement de ce que vous avez pu faire principalement dans les derniers mois?
Pour Razéo, 2018 a été une année très active. Elle a été à la fois active en termes de rotation du portefeuille. On a d'ailleurs été plus vendeur qu'acheteur en 2018. Hein, si je mets de côté les investissements dans Rhône et dans Idinvest, qui sont d'une nature un peu différente, ce sont des investissements stratégiques pour Razéo. Nous avons vendu pour environ 600 millions d'euros sur le bilan de Razéo au cours de l'année 2018. Pardon, nous avons acheté pour environ 600 millions d'euros et nous avons vendu pour 1,4 milliard d'euros. Donc une année active en termes de rotation d'actifs et puis surtout une année qui a permis de réaliser une évolution majeure de Razéo avec un très fort développement de la gestion de fonds pour compte de tiers suite aux investissements, la prise de participation de 70% dans Idinvest et l'investissement de 30% dans Rhône Capital. Ce qui a augmenté notre volume d'actifs sous gestion à 17 milliards d'euros, 6 milliards sur le bilan de Razéo et 11 milliards de gestion pour compte de tiers.
Vous parliez de ces cessions, c'est évidemment pas lié au contexte économique global, c'est lié plus à la durée dans laquelle vous gardez ces participations, aux opportunités, ou c'est lié quand même un peu à ce climat qui est un peu en train de se
Oui,
détériorer.
bah c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que d'une part, c'était des actifs qui étaient devenus matures, qu'on avait bien développés. Si je prends l'exemple d'Asmodée, en 4 ans, nous avons multiplié par 4 le chiffre d'affaires, par 6 l'EBITDA. On fait un multiple de 4 fois en 4 ans. Et puis, c'était aussi la rencontre avec un marché qui était un marché favorable pour réaliser les cessions.
Justement, quand vous regardez ce contexte-là, alors pour les financiers en ce moment, ils ont tous peur, on va dire, la bourse, en tout cas quand on regarde la bourse, soit Wall Street, soit en Europe. Quand vous êtes dans le private equity, est-ce que vous regardez ça aussi de près ou est-ce que vous avez une vision un peu différente?
Alors, c'est une question très intéressante, je trouve, parce que d'abord, je pense que les marchés financiers sont de moins en moins des marchés efficients. Des marchés qui gagnent ou qui perdent 5% parce que M. Trump fait un tweet, ce n'est pas pour moi la définition d'un marché efficient. Je pense que le private equity, de ce point de vue-là, est beaucoup plus solide. Quand on investit dans une entreprise, on a fait, avant d'investir, beaucoup de travail, de due diligence, d'analyse, etc. Et donc on paye un prix qui nous paraît être un prix raisonnable, mais qu'on sait argumenter, à la différence parfois de ce qui se passe sur les marchés. Deuxième élément, c'est que je pense que on a eu effectivement une correction sur le deuxième semestre. Les marchés ont eu une correction sur le deuxième semestre. Razéo s'est plutôt bien comporté dans cette période-là, parce qu'il y a eu une montée de l'anticipation des risques qui ont conduit beaucoup d'investisseurs à des positions de prudence. Et de fait, je pense qu'aujourd'hui, une bonne partie des risques que l'on peut identifier, je pense au Brexit, l'Italie, etc., d'une certaine façon, sont déjà largement pricés dans les cours des sociétés. Si ces risques surviennent, le Brexit, on semble être évidemment allé dans cette direction-là. Si ces risques surviennent, je ne pense pas qu'ils auront un impact majeur sur les cours des sociétés. S'ils ne surviennent pas, par contre, on peut avoir un effet de rebond. Donc je pense qu'on peut avoir, sauf accident imprévu, bien sûr, hein, c'est toujours possible sur les marchés. Mais on pourrait avoir une année 2019 raisonnablement calme, avec une croissance peut-être un petit peu molle, mais malgré tout une situation gérable.
Alors, dans les interviews qu'on a pu faire ici même d'entreprises, ça m'arrive souvent de leur poser des questions sur la croissance externe et plusieurs d'entre eux, dans des secteurs différents, ont dit oui, mais les cibles sont trop chères. Les cibles, parfois c'est vous qui pouvez en avoir certaines. Est-ce qu'on est effectivement en termes de prix, on en est où? Est-ce qu'on n'est pas un peu arrivé aussi là sur un.
Tout dépend ce qu'on en fait en réalité. Parce qu'acheter une société comme ça, standalone, et puis se dire on va attendre qu'elle se développe, elle est probablement trop chère. Mais par contre, si vous achetez une société que vous avez effectivement la capacité à développer, que ce soit d'ailleurs dans le cadre d'une acquisition de ce qu'on appelle un bolt-on, c'est-à-dire une acquisition au travers d'une de nos sociétés ou d'une nouvelle acquisition, si ça rentre dans un plan de développement avec la capacité à délivrer des synergies, accélérer la croissance, etc., dans ce cas-là, on peut payer un prix qui peut paraître élevé, mais qui est justifié par les perspectives de croissance et de création de valeur future.
Parce que là, il semblait avoir justement un peu de prudence en disant, bon, on va attendre de voir si les prix et pour faire effectivement ces opérations-là ne baissent pas. Donc vous, votre sentiment, c'est que ça n'a pas forcément baissé tout de suite ?
J'en sais rien, en fait, hein, mais je pense que... J'en sais rien, mais dit autrement, si aujourd'hui j'ai une opportunité de faire une acquisition au travers d'une de mes entreprises qui est très positif pour cette entreprise, qui va lui permettre de transformer son activité, d'accélérer son développement, et que tout ça me génère une rentabilité des capitaux investis qui est attractive, je ne vais pas attendre une hypothétique baisse pour le réaliser.
Alors, si on revient justement sur des acquisitions, il y a une participation que vous avez prise en Albingia, l'assurance. Alors, l'assurance dans le contexte, on peut dire, qu'est-ce qui motive cette acquisition ?
Ce qu'on aime bien chez Albingia, d'abord, c'est une entreprise spécialisée. C'est une société d'assurance qui a un très grand savoir-faire dans les risques d'entreprise. On n'est pas dans l'assurance de personnes, etc. C'est un premier point. Deuxième point, c'est une société qui a un très fort niveau de capitaux réglementaires. Donc, c'est une entreprise qui peut construire un développement important sur sa base actuelle. Troisièmement, c'est une très belle équipe de management conduite par Bruno Charmoin qui a démontré sa capacité à délivrer au fil des années. Et puis enfin, c'est une société, j'ai envie de vous dire, d'un profil un tout petit peu différent du profil moyen de nos sociétés, en ce sens que c'est peut-être un peu moins une société à très fort profil de croissance, mais en revanche avec une résilience qui a probablement une valeur dans les marchés actuels.
Le mot de la fin, justement, sur 2019, qu'est-ce que vous dites aux investisseurs aujourd'hui sur votre pour Eurazeo ?
Moi, je pense que, d'abord, Eurazeo reste une société solide. Je crois que c'est très important, et particulièrement dans les périodes d'incertitude comme celles que l'on peut connaître aujourd'hui. Nous n'avons pas de dette, on a une situation de trésorerie qui est très solide sur le bilan d'Eurazeo et qui nous permet d'accompagner et d'accélérer le développement de nos sociétés. On a investi dans des actifs transformants, on le disait tout à l'heure, avec Idinvest, avec Rhône Capital. Et puis nos sociétés, on a aidé nos sociétés également à faire beaucoup d'acquisitions transformantes chez Novacap, qui s'appelle maintenant Sequence, avec des investissements dans le domaine de la pharmacie, chez Planet Payment, dans le domaine des prestations de services pour les paiements. Donc j'espère qu'on pourra capitaliser pour 2019 sur tous ces investissements réalisés en 2018.
Merci Philippe Audouin d'avoir fait le point avec nous.
Merci Didier.